Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Nous allons parler tout à l'heure en deuxième heure d'émission avec quelqu'un qui carbure à on ne sait pas trop quoi. D'ailleurs, ça va être une de nos questions. Pierre Lavoie, fondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Peut-être que si vous avez des enfants, vous savez que vous pouvez toujours en ce moment faire les fameux cubes d'énergie de Pierre Lavoie jusqu'à la fin du mois de mai. Il y a le projet La Bécole. Il va faire un Ironman en Hawaï. Un autre. Incroyable que fait cet homme. Sincèrement, fort intéressant de voir ce qu'il va nous dire tout à l'heure. Stéphanie Côté sera là également avec nous, la nutritionniste qui va nous parler du mois de la maladie cœliaque. Vous savez que le mois de mai, c'est entre autres l'occasion de parler de cette maladie-là qui touche peut-être pas beaucoup de monde. Il y a quand même 2,5 millions de Canadiens qui recherchent des produits sans gluten à cause de ça, à cause de la maladie cœliaque ou du fait qu'ils se rendent compte qu'en mangeant du blé, entre autres, ils sont moins bien. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est exactement que la maladie cœliaque. On va essayer de différencier ce problème de santé assez important de l'intolérance dont beaucoup de gens se pensent affligés aujourd'hui, puis on vous dira quel genre de produit sans gluten, pourquoi, est-ce que c'est bon dans le coupé, bon, un peu tout ça. Mais d'abord, en première heure d'émission, on va parler de voiture parce que, ben, vous l'avez vu, prix de l'essence aujourd'hui, 1,48. On vient encore de vérifier. Ça, c'est une moyenne. Évidemment, il y a des écarts incroyables entre les municipalités. Vous êtes à Montréal, c'est sûr que vous vous faites avoir. Vous sortez un peu, vous allez un peu plus loin selon où vous êtes dans... Ben, vous pouvez peut-être payer un petit peu moins cher, mais il en reste pas moins qu'il y a eu un bond incroyable des prix de l'essence chez nous. Et là, on se dit, bon, les gens vont certainement allumer. En général, il y a un effet. Il y a comme une espèce de réaction en chaîne qui se fait. Les gens vont magasiner des voitures plus petites. C'est ce qu'on pense. Or, voilà qu'on se rend compte que ce sont encore les gros véhicules qui ont la cote, en particulier les gros camions de la série F de Ford, qui sont au Québec les plus vendus. Je vais vous dire un truc même, puis mes gars de voiture vont vous en parler à l'instant. Ford vient d'annoncer qu'elle ne produira plus qu'un seul modèle de voiture et qu'ils vont se concentrer sur les VUS et les camionnettes. Alors, au moment où on a, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y a la compagnie Volvo qui dit « OK, nous, là, c'est l'avenir est à l'électrique », bien, vous avez une compagnie comme Ford qui dit « Bon, ben Volvo roulera électrique tant qu'elle voudra, nous, on se concentre sur les gros véhicules. » Antoine Joubert est avec nous, chroniqueur automobile au Guide de l'auto. Merci, Antoine, d'être là.
Bien, grand plaisir.
Tu confirmes, effectivement, ce que Ford va faire. Hein?
Bien, je confirme avec une nuance, parce qu'on a annoncé qu'on ne fabriquerait plus de voitures. Donc, Fiesta, Focus, Fusion et Taurus, c'est parti. Et on a annoncé qu'on se consacrerait uniquement qu'aux VUS, aux multisegments et aux camionnettes. Par contre, il n'est pas dit qu'on n'aura pas d'électrique à travers tout ça.
Ah ouais,
mais ça sera des camions. On ne veut plus fabriquer de voitures.
On ne fabrique plus de voitures.
À part la Mustang, évidemment, qui est une icône, et ce n'est pas un modèle de voiture verte. Quoi qu'on va avoir une Mustang hybride sur le marché, juste pour se donner bonne conscience.
Germain Goyer est avec nous, producteur au contenu automobile pour Autonet, le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci d'être là.
Bonjour à vous deux.
Qu'est-ce que tu en penses de cette décision de Ford que d'aller que dans les... Bon, là, on a compris les nuances d'Antoine, mais n'empêche que c'est quand même une décision qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'on va débattre de ça, d'ailleurs, pendant la prochaine heure. C'est quand même assez intéressant. En même temps, par rapport au choix des Québécois, c'est logique, là.
C'est tout à fait logique. C'est sûr que c'est une décision qui peut paraître surprenante, mais du point de vue des affaires, c'est totalement compréhensible. Quand on regarde les chiffres de vente, là, au Canada, de 2010 à 2017, les ventes d'une berline comme la Taurus sont passées de 20 000 unités à 10 000 unités. Donc, c'est pas juste une faible décroissance, là. Il y a un désintérêt marqué pour la population pour ce type de bagnole-là. Puis, c'est la même chose pour la fusion, là. Les ventes dégringolent radicalement.
Mais est-ce qu'on conclut pas un peu trop vite, Antoine, que bon, là, c'est vrai qu'au Québec, remarquez, ça donne raison à Ford. Parce qu'au Québec, on aime les gros véhicules. On aime notre F-150.
Ben, moins qu'ailleurs.
Moins qu'aux États-Unis.
Aller dans l'Ouest canadien, c'est encore pire. Au Québec, on achète plus de petites voitures, mais pas nécessairement des américaines. Et tu sais, il y a une grosse nuance à faire entre, par exemple, Ford et General Motors, qui, de son côté, GM conserve beaucoup de voitures. Pourquoi? Parce qu'on les fabrique au Mexique, parce qu'on les fabrique en Corée, parce que le coût de fabrication est moins élevé. Et Ford n'a pas travaillé en ce sens-là. La Focus, qui est une voiture je m'excuse le terme, là, mais merdique. C'est une des pires voitures.
On peut dire la même chose de la Fiesta aussi.
Si j'allais vous dire,
c'est des voitures qui ne sont pas fiables, qu'on n'a pas renouvelées depuis 6 ou 7 ans. Des problèmes de transmission à outrance sur ces voitures-là.
Et comparé aux japonaises, ils ne sont pas dedans du tout, du tout.
Et même comparé à la Cruze ou à d'autres produits chez Chevrolet, on n'est pas là chez Ford. On n'a pas fait les efforts en ce sens-là. Et en plus, on fabrique ces voitures-là dans des usines américaines où les syndicats sont très forts.
Ouais.
Ça coûte une fortune à fabriquer des voitures qu'on doit liquider avec des taux d'intérêt planchers, donner des gros rabais dessus. Donc, on ne fait pas de sous avec ces voitures-là. Et qu'est-ce qu'on fait? On élimine la Focus du marché qui est fabriquée dans la région de Détroit. Et on va prendre cette usine-là pour fabriquer la nouvelle camionnette Ranger, le Ford Bronco, qui sont des nouveaux pick-up et utilitaires qui vont arriver sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on se débarrasse des voitures, parce que la future Focus, elle, va être fabriquée en Chine. Et ça va être pour des marchés mondiaux, et ça ne vient pas chez nous.
Ce qui est étonnant avec la nouvelle Focus, c'est que du côté américain, eux vont recevoir la Focus Active, qui est en quelque sorte une Focus surélevée, si on veut.
Vous voyez ça comme une Crosstrek chez Subaru, là?
Oui, c'est à peu près là, un style similaire, mais au Canada, on ne l'aura plus. Donc, la seule voiture va rester la Mustang ici.
Parce que j'allais vous dire, tu sais, vous parlez du fait que les fusions, les Taurus vont disparaître, ça va manquer à personne, là. C'est pas des véhicules transcendants non plus. Là.
Ce marché-là, c'est vrai, mais le marché de la petite voiture a encore sa place. Et bon, on a vu Chrysler qui l'a échappé 4 fois plutôt qu'une. On a éliminé combien de modèles dans les 10 dernières années chez Chrysler?
Il y en avait trop.
Pensez à la Caliber qui n'a pas fonctionné. Ouais. Pensez à la Dodge Dart qui n'a pas fonctionné.
À la 200 qui est éliminée aussi.
À la Chrysler 200 qui n'était pas une vilaine voiture, mais qu'on a éliminée aussi pour se concentrer sur des VUS, sur la marque Jeep qui est très forte, sur la marque Ram, qui est très forte.
C'est tout ce qui est rentable là, du côté de FCA en ce moment.
D'ailleurs, là où on perd de l'argent chez FCA, Germain, tu vas le confirmer, c'est du côté de Fiat.
Oui.
On a 4 modèles chez Fiat et combinés, et tenez-vous bien, ça c'est quand même pas à peu près.
Combiné. Avec les Fiat?
Alors, la Fiat 500L, la petite 500, la 500X et la Fiat 124, ces 4 modèles-là combinés, on en a vendu moins de 2500 au Canada l'année passée.
Savez-vous pourquoi?
Parce qu'on veut pas en vendre.
Ce sont pas...
On veut pas en vendre, tu penses?
La réputation de ces véhicules-là.
Trop cher. Moi, je n'en ai acheté une. Elle est juste trop chère, voyons donc.
Ah, c'est même pas une question de prix. C'est une question de réputation. C'est une question d'effort des concessionnaires.
Question de fiabilité des produits
Puis
aussi.
On a laissé tomber la serviette, là. Complètement, là. On se concentre sur ce qui se vend. Rentrer dans un concessionnaire Chrysler, qu'est-ce qu'on vend? Grand Caravan, Ram, Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Wrangler, c'est là-dessus qu'on se concentre.
Ouais.
Il n'est pas question de commencer à stocker des Fiat 500X qui sont, oui, tu as raison, qui sont trop chers. Et qui ne sont pas compétitifs.
Trop cher pour ce que c'est. On n'est quand même pas des pigeons. Là, mais, on a beau aimer le petit côté cute de la Fiat. Faut pas nous non plus exagérer. Là. 10 000 $ de trop.
Germain, tu vas être d'accord avec moi. Il y a combien de véhicules chez Chevrolet qui se vendent bien parce qu'on met les efforts pour le faire? Une Chevrolet Cruze, ça se vend pas comme une Civic, mais c'est un produit extrêmement décent.
Oui, puis il y a eu une version à haillons qui s'est ajoutée récemment.
C'est ça.
On fait des efforts là, pour essayer d'aller chercher de la clientèle.
Oui. Germain Goyer, Antoine Joubert, tu disais entre autres, Antoine, en plus, ici au Québec, on achète moins de gros véhicules comme des camions ou des véhicules.
On en achète quand même.
On en achète beaucoup. Ben oui. Je voulais pas te tenir là-dessus, mais c'est sûr que par rapport à ce qui se fait en Alberta, par exemple, où évidemment on est dans les sables bitumineux, où c'est l'industrie du pétrole.
C'est un autre monde.
C'est un autre monde, mais il en reste pas moins que nous ici, même étant plus vert, même étant plus porté sur l'électrique, parce que c'est un fait. On achète quand même beaucoup de ces véhicules-là, malgré un prix à la pompe qui ne fait que jouer au yo-yo avec nous, avec nos nerfs. Et donc,
ça a un impact, Isabelle, sur les gens qui pensaient peut-être, tu sais, des acheteurs très rationnels. Mais les gens je te dirais que les gens, plutôt que d'acheter un V6, vont acheter un 4 cylindres. Les gens vont...
Puis des V6, il y en a moins qu'avant aussi dans le segment des VUS compacts. Il y en a moins qu'avant. Là.
Mais on ne veut pas se diriger vers des voitures plus petites. On n'en veut plus des micro-voitures. Des modèles comme la Micra, comme la Chevrolet Spark, des Hyundai Accent, ça se vend encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et on réalise que des VUS compacts ou sous-compacts, c'est aujourd'hui tellement un bon achat parce que les valeurs résiduelles sont élevées, parce qu'on fait tout pour les liquider, que finalement, ça ne coûte pas réellement plus cher que de s'acheter une voiture compacte qui déprécie énormément.
Puis il y a le financement qui a été tiré sur plusieurs années. Là. Si on achetait un véhicule il y a 10 ans, on le finançait sur quoi? 3 ou 4 ans.
Et là, on est
aujourd'hui,
rendu...
on le finance sur 6 ou 7 ans. Donc, la différence entre une compacte et un VUS sous-compact, ben, la différence à l'achat, on l'étire sur quelques années de plus. Puis même au chapitre de la consommation, si on regarde là, la différence entre une Civic de base et un CR-V 4 roues motrices, au 100 km, le CR-V va consommer quoi? Un litre et demi de plus.
Ben, pour
bien des gens, la différence n'est pas
c'est ce que j'allais
négligée.
Dire.
Oui.
Tu sais, quelqu'un qui a une Ford Focus, par exemple, 2010-2011, ou une Mazda 3, puis qui décide de changer son véhicule, puis qui regarde un Mazda CX-5 ou un Honda CR-V ou un petit Chevrolet Equinox, nouvelle génération, beau petit produit, ben va réaliser que ce CR-V-là ou le
Equinox dépenser moins,
consomme que sa Mazda 3 de 2010. Ouais. Alors, tu sais, moi, quand j'entends que les VUS consomment trop, etc., qu'on n'est pas soucieux de la planète, écoutez, là, ces véhicules-là...
Puis on parle de quoi, là, en termes de différence de consommation?
Un Honda CR-V, 4 roues motrices, comme Germain mentionnait, c'est 8 litres et demi au 100. Un Nissan Rogue, c'est ce que ça consomme à peu près.
Et même chose pour le RAV4. Quand on passe à un VUS...
Aujourd'hui, par rapport à une voiture de 2010-2011...
Ben oui, puis une Mazda 3 2010, on roulait
quoi?
À 9,5. On roulait à 9,5. Il y en a des voitures qui étaient déjà économiques.
Mais un F-150, là, ça consomme. Là. Venez pas me dire que c'est pas de l'eau.
Ça consomme énormément, oui. Mais quand on passe...
On fait le choix là, de payer plus pour avoir plus de stabilité.
Mais pour certaines personnes aussi, l'achat d'un pick-up est nécessaire. Là, si on a...
Oui, je comprends. Tous les gars la construction.
Exactement.
Mais au-delà de ça, moi, j'en vois de plus en plus. Là. Puis c'est pas tout du monde qui a une compagnie de construction.
Je suis le meilleur exemple.
T'as quoi, toi?
J'ai un Ram. Avec
un
gros
toi.
V8 là, dedans.
Un V8?
Puis qui roule à 14 litres et demi au 100.
Oh mon Dieu.
Ouais, mais la bonne nouvelle, c'est que je ne roule pas trop.
J'espère que tu recycles.
Hein?
J'espère que tu fais des économies d'échelle, que tu recycles et que tu compostes. Oui,
j'achète de l'engrais écologique.
J'espère, ouais. On va, mon Dieu, ça passe vite. On est déjà rendu à la pause. On va vous demander déjà qu'il y a des gens qui m'écrivent. Il y a Justin qui me dit qu'il vient récemment de commander une nouvelle voiture. Ça va être sa deuxième, soit une Camaro 2010. Camaro,
ouais.
Ça se vend encore, ces
ben
affaires-là.
Oui,
Justin vient d'en acheter une. J'ai longtemps hésité à prendre le V6 au lieu du 4 cylindres, principalement pour le son, mais comme je roule pas vite, j'ai préféré le petit moteur. Bravo, Justin. Avec son économie d'essence, par contre, je devrais rouler au super. Et là, ça risque de me coûter cher. Il devrait faire des voitures sport électriques. Ah, c'est intéressant.
Si le son était un de ses critères, il aurait vraiment fallu y aller avec le V8, mais ça, c'est une autre histoire.
Regarde, il a fait une belle action. Là.
Tout à fait.
On respecte ça. Non, mais il faut aussi penser à l'environnement un petit peu. Là.
C'est vrai.
Oui, sauf qu'il faut faire attention. Un 4 cylindres turbo compressé qui roule au super et qui force beaucoup, ça ne consomme pas nécessairement moins qu'un V6 de bonne cylindrée qui ne travaille pas. Et le meilleur exemple de ça, c'est les damnés V6 3,5 litres EcoBoost de Ford qu'on annonce comme étant écologiques, mais qui consomment autant qu'un Ram avec un MI.
Le V8 5 litres, là, si on reste dans la même catégorie chez Ford.
Ces moteurs-là, c'est des moteurs qui requièrent plus d'entretien, qui sont moins fiables à long terme. Alors moi, là, la course à la cylindrée pour soi-disant sauver de l'essence, c'est pas toujours optimal.
Fait que toi, ton Ram, c'est quelle année?
2018, il est neuf.
Ah, oh, il est neuf!
Ouais, OK. Ouais. Faut-tu que j'aille honte de le dire? Non.
T'avais quoi avant?
J'avais une camionnette Nissan avec un V6 qui consommait autant.
Quelle année?
2015.
On me dit que t'as quand même une vieille minoune qui traîne quelque part.
J'en ai plusieurs.
Toi aussi, Germain?
Oui, exactement. Oui, je suis venu avec un grand marquis V8 ce matin. Là.
Un grand marquis?
Avec le demi-toit en vinyle.
Ah, mais ça, c'est une voiture...
On dirait que j'entends des gens raccrocher ou éteindre leur radio présentement.
Non, mais un grand marquis! Quel âge que t'as, en plus?
J'ai 22 ans, la voiture est un peu plus vieille que moi.
Un petit peu? Quelle année?
83.
Aïe. C'est que tu l'as emprunté à qui?
Non, je te blague. Je l'ai acheté dans monsieur du
Mais c'est quasiment une collection. Là.
Oui, c'est pour le plaisir.
C'est pour le plaisir. T'as un petit côté vintage
qu'on
ne soupçonnait pas.
Exactement.
Ben, Germain et moi, on a cette même passion-là d'avoir plusieurs vieilles voitures qu'on ne roule pas. Donc, c'est vrai qu'elles ne sont pas écologiques, mais en même temps...
Mais vous, c'est un investissement, là, les amis, ou quoi?
C'est un plaisir,
non, c'est une maladie.
Ah, c'est une maladie. Ah, c'est possible.
Ces voitures-là arrivent à un stade où elles perdent plus vraiment de valeur. Elles peuvent en prendre un peu, là, dépendamment des modèles, mais le restant...
Mais êtes-vous bon en mécanique, les deux? Là? Mettez-vous les deux mains dans le moteur?
Je suis pas mécanicien du tout.
Pas tant que ça, non.
Pas alors, tant, parce qu'il faut l'être un peu, non. Moi, j'adore les voitures.
Il faut être débrouillard, oui, mais...
C'est ça, on fait la base, mais quand il y a des cas plus extrêmes...
Surtout avoir des bons contacts.
C'est ça, exactement. On va s'arrêter ici. Toutes nos lignes sont pleines déjà, mais on vous demande la question que je me pose toujours, puis on se la posait dernièrement, parce que à chaque fois qu'on parle de voitures électriques, puis on a eu quelques discussions, vous et moi, ensemble au cours des dernières semaines là-dessus, puis les gens, il y a toujours plein de gens qui me disent « ben moi, j'ai acheté un F-150 ». Fait que, coudonc, comment ça se fait? Puis c'est vrai qu'on en voit beaucoup sur les routes. Moi, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus, effectivement. Ils s'en voient beaucoup. Là, on vient de dire que Ford avait décidé de vraiment miser sur les gros porteurs, les gros véhicules comme ça, les utilitaires, les VUS. Moi, mon hypothèse, c'est qu'au Québec, on est bien tanné de scraper nos roues avec les pieds, ben, avec les nids de poule.
Les roues, les suspensions.
C'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Pardon. Alors, je me dis, c'est probablement ça qui justifie, entre autres, l'achat de ces gros véhicules-là. Mais vous me direz pourquoi vous en achetez, si c'est le cas. Pourquoi vous en avez acheté un? Et également, est-ce que vous comprenez la décision de certains constructeurs automobiles qui décident d'aller contrairement dans le champ gauche, c'est-à-dire de réaffirmer notre dépendance au pétrole, 514-790-9850. Et sans frais, vous pouvez nous joindre en faisant le 1-866-790-9850. Alors, on se pose la question ce matin, pourquoi les Québécois continuent-ils de choisir de gros véhicules? Puis là, on parle vraiment de gros camions, des véhicules utilitaires également, ce qu'on appelle les VUS. Chantal est avec nous, elle y songe d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pensez magasiner en ce moment, Chantal? Bonjour.
Je me cherchais un véhicule pour l'été, un véhicule plaisant, que je peux enlever le toit, tout ça. Alors, m'est venu en tête, naturellement, le Jeep, le Wrangler, mais le coût de l'essence est tellement élevé que je me dis, pour le plaisir, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Alors là, je regarde, j'hésite entre la petite Mini Cooper qui est beaucoup plus économique, je peux enlever le toit pour avoir du plaisir pour l'été, mais je vous avoue qu'avec le prix de l'essence, ça me fait songer, j'hésite énormément à cause de ça.
Ce qui est intéressant avec le Wrangler, c'est que l'hiver, il y a le rouage intégral, là, donc vous serez jamais pris dans un banc de neige
en hiver. Mais à quel prix? C'est ça le problème. À quel prix?
Voilà. Ouais, le Jeep Wrangler de nouvelle génération, je vous rassure, est drôlement plus convivial pour une conduite de tous les jours que l'ancienne génération. On a augmenté le prix de façon significative parce que la valeur de revente de ces camions-là est incroyable. Et j'oserais dire que vous allez avoir une meilleure fiabilité avec ça qu'avec une Mini Cooper, c'est certain.
Fiabilité en termes de...
Fiabilité, parce qu'une Mini Cooper, c'est pas nécessairement un modèle de fiabilité.
Les coûts d'entretien
c'est tout le temps
chez
rendu
Jeep,
au garage, là,
les coûts d'entretien chez Jeep sont moins dispendieux que les pièces chez BMW aussi, Mini.
Ouais. Hein. Ouais. En même temps, j'ai toujours trippé, là, comme Chantal, sur la Jeep Wrangler. Sauf que je trouvais qu'en termes de tenue de route, je sais pas les derniers modèles, je n'ai pas essayé, mais...
Un 2016-17, c'est épouvantable.
Épouvantable, genre?
C'est pas stable, ouais, ça prend dans le vent, c'est complexe. Et baisser
le toit... Sur la 10, là, oh,
et baisser le toit d'un Jeep Wrangler, pensez pas que ça se fait de façon facile.
C'est compliqué.
Mais la nouvelle génération, c'est beaucoup moins pire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez opter pour un moteur 2 litres turbo dans le nouveau Jeep Wrangler.
Donc, un 4 cylindres au lieu d'un V6.
Il va consommer un peu moins quand même que le V6, mais ça ne sera pas économique. Là.
Ouais.
Je vous dirais que si vous cherchez une décapotable à bon compte actuellement, c'est drôle à dire.
Une petite MG bleu poudre. Là.
Non.
Moi, je cherche ça si quelqu'un
a une. Une Beetle flambant neuve.
Une Beetle?
Une Volkswagen Beetle. Les gens, ils ne pensent plus à cette voiture-là.
Décapotable, ouais.
C'est solide.
Profitez-en avant que Volkswagen arrête de la produire.
Mais c'est une voiture fiable, plus que la Mini.
Pourquoi ils veulent-tu arrêter de la faire aussi?
Oui, ça achève. Un des dirigeants de Volkswagen avait dit qu'il y a quand même bien des limites à produire un new Beetle.
Mais ça se vend! Ça se vend quand même.
C'est pas des gros volumes.
Ça se vend plus beaucoup. Volkswagen n'a pas réussi avec la Beetle à la faire perdurer comme Mini a fait avec la Cooper.
Non, c'est ça.
Mais cette voiture-là, on peut l'obtenir à peu près 30 000 $ et c'est vraiment
en
version décapotable. C'est une bagnole solide, là, plus fiable qu'une Mini et plus agréable l'hiver qu'une Mini certainement. En tout cas, en ce qui me concerne.
Ouais.
Donc ça peut être une belle option, mais c'est sûr que le Jeep Wrangler c'est beaucoup plus cher aussi. Alors, c'est un pensez-y bien.
Bon, je sais pas si on a réglé le problème de Chantal, finalement. Qu'est-ce qu'elle a retenu?
Ben, mais
si c'est un jouet d'été, tournez-vous vers l'usager. Gardez-le l'hiver. Gardez-le pour l'été. Puis achetez-vous un petit véhicule plus rationnel pour l'hiver.
OK, mais lequel, elle veut savoir, le chanteur?
Vous pourriez vous acheter, par exemple, un petit Honda HR-V, un petit véhicule comme ça pour le quotidien, et vous payez la traite avec une belle petite Miata usagée.
C'est ça. Une petite Miata, ça a de l'allure,
ça? C'est incroyable.
Une Miata d'une dizaine d'années.
Ben oui. Ouais.
Combien on paye ça, une Miata?
En bas de 10 000, là.
Ah, ouais. Ah ben ça, c'est des vieilles, là.
Oui, oui.
Oui, ouais. C'est ça. Mais
ça aussi, ça garde une bonne
valeur. Bon, ben Chantal, vous avez une coupe de proposition pour magasiner, là. Merci de votre appel. On a Serge avec nous. Bonjour, Serge.
Bonjour, Mme Richard.
Est-ce que vous pouvez répondre à notre question? Pourquoi les Québécois, d'après vous, continuent, et même en de plus en plus grand nombre, à choisir des gros véhicules?
Je vais vous donner notre raison. On est une petite famille, on a deux véhicules, et ma femme se promène en F-150.
Ah oui?
Elle travaille à proximité de la maison.
Uh-huh.
Et les fins de semaine, on fait du camping.
Ah ben oui.
On tire de roulotte.
Uh-huh.
Et on a besoin d'un véhicule comme ça pour faire du camping.
Alors, donc,
c'est
voilà.
La raison pourquoi nous avons acheté récemment, l'année dernière, un F-150.
Mmh. Wow. Ben, moi, je t'avais demandé d'acheter un si ça continue, là, parce que elle est plus capable, les nids de poules.
C'est un derby de démolition, les murs.
Là, tu sais que tu passes partout avec ça. Là. Tu t'en vas en camping, tu t'en vas dans Garnotte, tu t'en vas sur Turco. Qui est l'équivalent de la Garnotte.
Mais j'ai vu le Nec plus ultra en termes de route démolie la semaine passée. Notre-Dame dans l'Est de la ville de Montréal. C'est pas des farces.
Ah non, mais faut
faire
j'étais
avec le RAM et j'avais l'impression que j'étais en train de le démolir. C'est incroyable comment c'est défait ces roues.
À quelle hauteur, entre Vieux et Pipineuf?
Pas loin des raffineries de pétrole.
Là. Ah oui, là, t'étais
là,
vraiment
c'est à l'aise, vraiment défait. Ça a aucun
non,
bon
mais
sens.
Même autour de Pipineuf, Vieux, tout. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ouais. Le monde de l'Est, tout le monde s'en fout.
Et d'ailleurs,
le monde s'en fout. On le dit pas assez, là. À quel point c'est épouvantable de traiter des gens comme ça. Mais pas juste les gens de l'Est, tous les gens là, qui vont sur Notre-Dame, il n'y a pas que des gens qui habitent à Hochelag. Là.
Non.
Il y a tous les gens qui empruntent. Ça t'amène partout, ça.
Et
ça fait des années qu'on promet de refaire la rue Notre-Dame, puis on fait rien. Là. Mais on nous propose. Ah ben là, quoi qu'on le dit plus, là, la ligne rose du métro, on le dit plus trop fort.
Oh, ouais, c'est ça. Mais l'impact aussi, c'est le marché après-vente automobile. Vous n'avez pas idée à quel point les gens changent des roulements de roues, des pièces de suspension, de direction plus rapidement. On voit ça sur des modèles 2015-2016, des roulements de roues qu'on remplace à outrance parce que les routes sont défaites. C'est pas des pièces qu'on vend aux États-Unis, en Floride, en Californie, là. Ça se vend ici. Les voitures se font littéralement démolir. Même des véhicules neufs.
C'est une honte.
Même des véhicules neufs, là, je vais vous donner l'exemple d'Acura et de Honda. On a des problèmes de suspension sur des CRV, sur des RDX. Et les plaintes sont faites au national et personne ne comprend parce que ces problèmes-là ne surviennent pas ailleurs
T'as
en Amérique
T'as pas ça en
Nord.
Ontario
ben
non plus?
Ouais. Il y a juste des plaintes
le problème,
qui viennent
c'est peut-être pas le constructeur. Hein?
C'est ça.
Mais moi, je suis étonnée, je l'ai déjà dit ici, qu'il n'y ait pas déjà un recours collectif. Juste le nombre de personnes, je vais reparler à Marc Brière tous les matins, Marc, il compile le nombre de personnes qui viennent de brûler, de carrément, excusez l'expression, mais scraper leurs pneus juste parce qu'ils viennent de tomber dans un nid de poule. Je pense que la semaine dernière, il y en avait au moins 6. Moi, c'est arrivé à mon conjoint il n'y a pas longtemps. L'année dernière, ça m'est arrivé à moi.
Ouais.
On cet roule hiver, pas en fou, là.
Cet hiver, j'ai roulé dans un gros nid de poule sur Iberville, à Montréal.
Tu viens de la ressortir?
Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai eu deux crevaisons. Donc, les deux pneus de droite ont roulé dans le trou. Et bang, bang, une crevaison
après
l'autre.
Donc, Antoine, il manque c'était... que toi, là, j'imagine,
ben,
toi aussi.
Paradoxalement, non, j'ai pas...
Ah ben non, il y a
pire.
Un rame, c'est ça?
Oui, c'est ça. Non, mais paradoxalement, ce qui est drôle, c'est qu'on veut toujours grosser nos roues. Hein, mettre des roues plus grosses, des pneus à profil plus bas parce que c'est plus beau. Sauf qu'on démolit toute notre voiture là-dedans. Ouais. Fait que quand je dis aux gens, faites attention quand vous achetez un véhicule neuf, regardez comment il est chaussé. Prenez pas nécessairement l'option du 21 pouces, vous allez la regretter.
Ouais. Et au moins pour l'hiver, de prendre des roues plus petites avec plus de caoutchouc, c'est important.
Moi, je suis étonné qu'il y ait encore des voitures de luxe qui se vendent, qui sont bas, là, qui sont
parce
proches de l'asphalte.
Parce que
c'est
beau, tout simplement.
C'est peut-être beau, mais c'est juste plus possible ici de rouler avec ça.
C'est l'enfer.
C'est plus possible. Badingue, c'est vraiment, tu fais comme t'en as mal au ventre.
Bon, alors oui, c'est peut-être une raison pour laquelle les gens achètent un petit VUS, ne serait-ce que pour le sentiment de sécurité, position de conduite. Puis parce
un peu plus haut sur...
Ben oui.
On va aller tout de suite à la pause, mais on revient avec vos commentaires. 514-790-9850. Dites-moi pourquoi vous continuez de choisir de plus gros véhicules. À tout de suite, tout le monde. On est en compagnie de Bruno. Bonjour.
Oui, bonjour. Je salue tout le monde. Moi, je vais faire ça vite. Présentement, j'ai un Ford Edge 2014 V6 3.5 litres, il y a 120 000 km. Là, je tire un bateau, puis je suis en train de regarder, c'est soit je le fais mettre à l'eau, puis je m'arrête en char électrique, là, je ne sais plus quoi faire. Là, fait que, je vais rajeunir mon port, parce que je marcherai à 12,1 litres pour 100, là, présentement, là, wow. Combiné ville-route. Là.
Puis vous êtes doux avec, là, parce qu'un Edge 3,5, ça peut ça consommer.
Ça boit pas mal. Ouais,
ça boit pas
moi,
mal.
C'est très doux, là, puis je roule pas plus de 105 km/h, puis... Départ tranquillement, arrête tranquillement, parce que sinon, là, je monte à 14-15 facile. Là.
Wow!
Ouais, mais c'est ça.
Quand j'ai acheté mon bateau, là, j'ai regardé, là, je sais, là, c'est 20 litres au 100.
Ah, ben oui, là c'est certain. Ça, c'est certain.
Dès que le moteur est sollicité un peu, là, la consommation explose. Non, c'est pas
ça.
Long.
Ben oui. Pour ça, je me demande, je vais acheter un autre véhicule, parce que ça prend quoi pour tirer 4 000-4 500?
Ou acheter une chaloupe?
Ben, vous allez être capable, c'est-à-dire que vous allez être capable de trouver un véhicule qui va remorquer 4000 livres et qui va consommer moins que votre Edge. Mais est-ce que vous avez besoin de descendre votre bateau à l'eau souvent ou est-ce que vous pouvez le faire une fois à l'automne et au printemps? Alors,
non,
si c'est le cas.
C'est ça que je me demande. Là. Je le laisse-tu à l'eau ou. Ben non, c'est parce que moi, là, présentement, je rentre, je le sors à chaque fois. Donc, ben, je suis pas loin, je suis à peu près à 2-3 km de la descente. Là.
À ce moment-là, ça vaudrait peut-être la peine, là, justement, de le faire une fois au printemps, une fois à l'automne, puis de vous acheter un véhicule plus économique.
Là. Je vais vous donner Je vais vous donner un bon exemple. Vous achetez un F-150 2,7 litres EcoBoost actuellement. Là. C'est un véhicule qui va rouler à peu près à 10 litres au 100 avec ce moteur-là. Vous pourriez vous acheter un Ram Eco Diesel. Vous pourriez. Il y a des véhicules aujourd'hui qui sont beaucoup.
Le nouveau diesel de Ford aussi. Nouveau... Si monsieur veut rester dans
le. Le V6
3 litres.
Le Edge de.
Le Edge se fait avec le V6, se fait avec un 4 cylindres, puis vous allez être capable de remorquer. Ben non, le 4 cylindres, vous allez avoir de la misère à remorquer 4000 livres. Là.
Moi, j'ai une proposition pour vous, Bruno, par exemple, si vous cherchez quelque chose qui tire solide, là. Il y a le nouveau Tesla Model X avec une capacité de remorquage, écoutez ça, de 5000 livres. Dernièrement, il y a eu un essai.
Maréchal, il n'y a pas de problème.
Bon, ce ne sera pas moi qui vais le financer, certain, parce que vous connaissez le prix, mais c'est juste pour dire, je trouvais ça intéressant, il y a un essai qui a été réalisé avec la compagnie Qantas, la compagnie aérienne, et ils ont tiré un Boeing 787-9 Dreamliner, okay? Un avion de 290 000 livres. Et c'est la Tesla Model X qui est devenue le premier véhicule électrique à pouvoir tirer une aussi grosse charge.
Il y avait
imaginez,
pas un Touareg,
ils ont tiré un avion.
Il y a une dizaine d'années.
Mais là, véhicule électrique, c'est Tesla Model X. Ouais, mais comme dit Bruno, je vois qu'il connaissait bien les prix.
Ça vaut au-dessus de 100 000 $ là.
Attends, écoute, au Canada, 180, on peut dire 190 000. Puis la version de base. La version de base, avec une petite batterie. 122 000 piastres quand même.
Avec un radiocassette. Il n'y a rien dedans, ce prix-là.
Non,
un Tesla Model X en bas de 150 000, ça existe à peu près pas.
Ouais. Puis, mais il paraît que c'est un modèle de course. Là. C'est une voiture qui passe de 0 à 100 en 3,1 secondes.
Oui. La même mécanique dans une Model S, vous le faites en 2,6 avec un P100D. C'est une fusée. Mais c'est sûr que ça prend le budget qui va avec.
Oui, c'est ça. Bon, c'était juste amusant de voir que ça existe. Merci, Bruno. Merci beaucoup. On a Dany avec nous. Bonjour, Dany.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Savez-vous pourquoi, vous, les Québécois, achètent de plus en plus de gros véhicules utilitaires, des camions?
Oui, exactement. Pourquoi? Parce que comme un Chevrolet Silverado, mettons, moteur diesel 2011, ça fait 7 ans de ça. C'est un véhicule de 7 ans. Donc, la personne, si elle l'a acheté neuf, il est payé, on s'entend. Ça vaut 30-35 000 $. Quand vous achetez un Hyundai Tucson, 2011, flambant neuf à 30-35 000 $ puis il se retrouve que à la fin, ben il vaut seulement 5 000 $ Donc, il y a aussi la valeur des camions pleine grandeur qui est vraiment avantageux, tu sais.
Mm-hmm. Bon, Antoine n'a pas l'air d'accord avec vous là-dessus.
Ben, pas exagéré.
Non, c'est ça. Je dirais pas que... Je veux dire, une camionnette, ça déprécie aussi. La seule chose, c'est qu'actuellement, le marché américain étant très fort et le dollar nous étant défavorable, tu sais, on dit qu'on vend 140 000 ou 100, c'est 155 000 F-150 qu'on
a vendu. Oui, ça, c'est important ce que tu vas dire.
Ben, écoute, c'est pas vrai qu'on vend 155 000 camions à 155 000 personnes. Moi, je connais des gens qui renouvellent leur camionnette deux ou trois fois. J'ai un ami qui change son GMC.
En combien de temps?
En un an. Oui, c'est bon de le spécifier. En un an. J'ai un ami qui change son GMC Sierra Denali aux 6 mois. Alors, il l'achète de son concessionnaire. 6 mois après, redonne les clés au concessionnaire qui prend soin de vendre ce véhicule-là usagé aux États-Unis et lui en revend un neuf pour le même prix. Alors, lui renouvelle son véhicule aux 6 mois.
Il ne perd pas de dépréciation.
Il achète son véhicule, fait son paiement normal. 6 mois après, on le rassoit dans un autre identique.
Parce qu'il gagne sur le taux de change?
Parce que lui va vendre le véhicule aux États-Unis. Il ne peut pas le vendre à l'état neuf aux États-Unis. Ouais. Mais quand le camion a 6 mois, là, on peut le vendre aux États-Unis, évidemment, avec 25-30 de taux de change. On fait un profit comme ça. Alors, il y a beaucoup de commerçants et c'est pourquoi on est capable de louer des camions Ram actuellement à 300$ par mois. Pourquoi que les prix des camionnettes sont si bas, que les valeurs résiduelles sont si élevées? C'est parce qu'on spécule sur le dollar américain et sur le fait qu'on va être capable de vendre ces camions-là dans 12, 18, 24 mois aux États-Unis à prix intéressant.
Ah,
parce
ouais.
que c'est un faux marché, là. On vend beaucoup plus de camionnettes pleines grandeur actuellement sur le marché que les besoins réels. Alors là, on se pète les bretelles.
T'as pas le droit, mettons que tu t'achètes un véhicule, mettons que je m'achète demain matin un F-150, ouais. Je peux pas tout de suite le vendre à Cornwall.
Faut qu'il y ait 6 mois.
Faut que j'attende 6 mois.
Cornwall, oui, en Ontario.
Ah, excuse-moi,
c'est quand on le vend aux États-Unis,
Cornwall,
par exemple.
Plattsburgh. Ouais. Mais dans 6 mois, je peux le faire.
Dans 6 mois, tu peux le faire.
Ah ben.
Exactement.
Puis il y a beaucoup de gens, parce que tu dis...
Il n'aura pas perdu tant de valeur que ça.
C'est pas marginal. Oui, c'est ça ce que je comprends. Oui, puis il y a même une potentialité de faire un petit peu plus d'argent que le taux de change qui est à 30, 35, 32 % en ce moment.
C'est parce qu'en plus, aux États-Unis, il en manque. Tout le monde en veut de ces camions-là. Ils en manquent. Ils ne fournissent pas.
Ah non.
Alors, il y a un gros marché. Moi, je me souviens d'une époque où Toyota interdisait à ses concessionnaires de vendre des camions Tundra, Sequoia, 4Runner aux États-Unis parce que les Américains en veulent, sont prêts à payer 10 000 $ de plus que ce que ça vaut pour les avoir parce qu'ils n'en ont pas. Alors, c'est un gros marché. Les camions pleines grandeur, là, oubliez le Nissan, disons, le Titan que personne ne veut rouler.
C'est quoi les plus populaires, mettons, là? Parce qu'il y a des gens qui veulent savoir là, si je voulais m'acheter...
Le trio américain reste le plus populaire. Là, on pense au F-150, au Silverado, à son jumeau, le Sierra, puis au Ram 1500.
Le Tundra se défend bien dans cette mer-là d'Américains parce que c'est un camion qui garde une bonne valeur puis qui est fiable et qui commence à être désuet. Là.
Ah ouais?
Mais qui commence à être sérieusement désuet.
Ouais.
C'est le gros marché. Là. Ram vient de renouveler son camion en 2019. GM renouvelle son Duo en 2019 avec des mécaniques encore plus populaires. Tout le monde arrive avec des diesels 6 cylindres pour concurrencer Ram qui est allé chercher un bon marché là-dedans.
Faut-tu s'acheter quelqu'un là, qui veut choisir en ce moment un gros véhicule, un pick-up ou une camionnette? Est-ce qu'on recommande le diesel?
Les laisser vieillir parce qu'on sait que le moteur Venturi chez Ram est pas méchant, le 3-litre diesel, mais celui qui va se retrouver dans le F-150, on vient de le conduire à peine, c'est un moteur qui vient de chez Land Rover. Est-ce que ça va consommer beaucoup de liquide durée? J'ai bien hâte de voir ça parce que les gens de Land Rover se plaignent de ça pour que le moteur rencontre les normes.
Hey, Land Rover, c'est cher. Les pièces là, de Land Rover, là.
Fait que ça
moi,
va
j'adore
être
ce véhicule-là, mais tu te dis, OK, ben là...
Ouais, en entretien, c'est catastrophique.
Ben, c'est ça. Fait que ça va être quoi dans le F-150? Moi, je vais le laisser vieillir. Puis même chose dans le moteur dans le Chevrolet Silverado. C'est un moteur qui, je crois... je me trompe peut-être, là, mais je crois que ça vient de chez Isuzu. Donc, il faudrait vérifier d'où vient ce moteur-là et quelles vont en être les performances.
Et ça, c'est bon à dire aux auditeurs. Quand vous magasinez, regardez d'où viennent les composantes du véhicule que vous achetez, là, que ce soit n'importe quoi, que ce soit une voiture, que ce soit un petit VUS, que ce soit un gros camion.
Ben, puis
parce qu'après, les coûts d'entretien sont en lien avec les pièces puis le coût des pièces. Là.
Quelqu'un qui magasine un pick-up pleine grandeur, pour moi, ça reste simple. Là. Un V8 atmosphérique demeure la solution. Oui, il va peut-être...
Il va
sûrement consommer un petit peu plus... litre au 100. Et c'est ça. Et encore, des fois, il va consommer autant qu'un 6 cylindres turbo. Mais à long terme, après 100 000, 200 000 ou 300 000 kilomètres, ce type de moteur-là...
Si tu l'as toujours.
Mais même sur le marché d'occasion, quelqu'un qui achète un pick-up qui a 10 ans, un V8 va être plus fiable et beaucoup moins coûteux à entretenir qu'un V6
aussi...
turbo compressé. Là.
Oui, ça c'est vrai, mais ça dépend des besoins. Je veux dire, un Ram avec un V6 Pentastar peut faire du bon boulot. Un F-150 avec le petit V6 3.3 litres qu'on vient de sortir, ça peut faire du bon travail aussi. Mais ça dépend des besoins.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'un GM V8 5.3 litres avec une 8 vitesses automatique...
Si vous avez des problèmes, vous êtes bien malchanceux.
C'est une mécanique indestructible et ça consomme oui, ça consomme plus qu'une Honda Civic, là.
C'est clair.
Mais par rapport à une camionnette d'il y a 10 ans, c'est 30% plus économique que ce que c'était il y a 10 ans.
Ouais. On s'arrête ici, on revient tout de suite après la pause. Non? On a René avec nous. Bonjour, René.
Bonjour Isabelle, puis bonjour à tes invités.
Est-ce que vous savez pourquoi... Oui, allez-y donc,
oui. Allez-y.
Ben, je voulais vous demander, comme ça, vous savez la question, pourquoi est-ce qu'on continue, puis de plus en plus, on s'achète des gros véhicules au Québec, des camions, des... Pensez-vous que c'est à cause de l'état des routes? Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec mon hypothèse. Êtes-vous d'accord, vous aussi? Pensez-vous que c'est ça, la raison?
Un peu, mais je dirais surtout que les gros camions sont beaucoup plus économiques qu'ils étaient comme anciennement, les anciens, là.
C'est vrai, ça.
Et comme tantôt, d'autres interlocuteurs parlaient, il y en a qui ont des roulottes, des bateaux, des ci, des ça. Mm-hmm. Mais moi, c'est surtout la question du gaz qui m'intéresse un peu. Moi, j'ai un Tiguan Volkswagen 2011, puis je fais 60 000 km par année.
Wow.
Puis le manufacturier nous dit de tanker au super.
Ouais.
C'est-tu vraiment nécessaire ou si j'irais tanker aux ordinaires réguliers si...
C'est intéressant sur les cylindres d'essence.
Turbo compressé, moi, je prendrais pas de chance du tout. Pas le choix de faire le plein au super.
Je sais, je suis allé déjà. J'ai déjà rentré au garage pour le décarboniser, même si plutôt super.
Exactement.
Fait qu'imaginez s'il n'avait pas été alimenté au super, ça serait encore pire.
Là, je voudrais peut-être changer, pas tout de suite, parce que je suis pas rendu là, mais un autre VUS, y a-tu des marques? Je regarderais plus Toyota ou Honda.
Parce que si vous avez aimé votre Tiguan, vous aimerez pas le nouveau. Ça, je vous le garantis
c'est
tout de suite.
Quelle déception, le nouveau Tiguan. C'est épouvantable.
Ouais. Ils l'ont américanisé. Produit, on l'a dit en même temps. C'est exactement
Qu'est-ce que vous voulez dire, américanisé?
Ben, c'est rendu une grosse pantoufle américaine. Là. Le plaisir de conduire de l'ancien Tiguan, on l'a pas du tout, avec le nouveau.
Mais il
était petit, il était compact, il était agile, l'ancien. Puis on retrouve rien de ça dans le nouveau.
Et cher, les amis.
Oui. Ben le nouveau Tiguan est moins cher que l'ancien. Ils ont vraiment voulu...
Ben, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû leur dire, vous
exagérez. Ils sont ajustés à ce que les Américains, les Japonais font, avec une formule qui plaît davantage à des familles qui recherchent un véhicule plus spacieux, plus confortable, avec plus d'équipement, etc. Ouais. Mais les amateurs de Volkswagen qui aimaient la conduite, c'est fini, là.
Parce qu'il y a un grand coffre, il loge en masse, il y a de la place pour les passagers, tout ça est là. Mais la valeur ajoutée
de
l'ancien Touareg
par rapport au Tiguan.
Le Touareg disparaît.
Ouais.
Et c'est l'Atlas qui est le plus gros VUS là, chez Volkswagen en ce moment. Puis encore là, c'est pas un Volkswagen
c'est
à mes yeux.
C'est un Honda Pilot, c'est un Chevrolet Traverse. C'est exactement.
Ouais, c'est ça. J'ai un ami qui vient s'en acheter un. C'est plate. On a Danny avec nous. Bonjour, Danny.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, donc j'ai un Chevrolet Traverse qui consomme 14,5 litres aux 100 km parce que je travaille près de la maison. Je vous explique pourquoi j'ai ce véhicule-là, c'est que j'ai trois enfants, donc de 6, 9 et 11. Et donc, on n'avait pas le choix de les séparer parce que sinon, ils se tapent dessus. Donc, avec le coût de l'essence, je me suis dit, tiens, je vais aller magasiner un nouveau véhicule. Donc, dernièrement, je suis allé voir un Rogue qui consomme moins et un Tucson. Mais malheureusement, les banquettes sont faites, oui, pour accueillir trois personnes, mais ils sont quand même assez serrés puis ils risquent de se taper dessus avec des longs voyages. Donc, je pense que j'ai pas le choix de rester avec un véhicule.
Sept passagers. Dans les VUS compacts à trois rangées, il y a le Tiguan dont on parlait tantôt qui est disponible avec la troisième rangée. Il reste le Journey puis, puis l'Outlander.
Tu l'as nommé, le Journey?
Ouais, je l'ai nommé, c'est ça. C'est pas parce que je le nomme que je le conseille.
Mais
c'est
vrai que là, je veux dire, la troisième banquette, c'est le banc des punitions, là. C'est
vous envoyez le petit en arrière, puis...
C'est ça.
Voilà. Dans un cas comme ça... Vous lui donnez des bonbons pour pas qu'il se plaigne trop.
Pour
parce
économiser
que c'est
de l'essence dans ce segment-là, là, c'est loin d'être excitant comme produit, croyez-moi, mais un Nissan Pathfinder, consommation d'essence raisonnable... je viens de faire la route 66 et le véhicule de ceux qui m'accompagnaient était un Nissan Pathfinder.
Ah ouais.
On a roulé en moyenne à 9,6 litres au 100 km sur route avec un Pathfinder V6, 4 roues motrices, très bien équipé et chargé. Alors ça, c'est autoroute seulement, là, mais ça vous donne c'est beaucoup plus économique qu'un Chevrolet Traverse d'ancienne génération, c'est sûr. Là.
Merci de votre appel. On a Claude qui m'écrit la Mitsubishi Outlander électrique 2018. On va faire quand même un effort. Là. Mais c'était pas une discussion sur la voiture électrique aujourd'hui. C'était une discussion vraiment sur les
gros moteurs. Ça fait partie de l'actualité. On n'a pas le choix d'aborder.
Mais donc, moi,
sujet.
Je l'ai vu dernièrement, le Outlander électrique 2018. Intéressant, non, d'après vous? Qu'est-ce que vous en pensez, Germain Goyer, Antoine Jobert?
Il n'est pas 100% électrique, donc c'est un hybride rechargeable. Donc, ouais. Avec une recharge complète, il est capable de parcourir 35 km, ce qui n'est pas énorme. Là.
Et après, il y a fait 35 km?
Oui, et après, il y a le moteur à essence qui prend le relais.
Ça devient un hybride. Là.
Ah oui, c'est pas beaucoup quand même.
Mais c'est qui se détaille 45 000 à partir de 45 000 $ là, c'est beaucoup de sous tout ça là.
Ouais. L'avenir est là par exemple, Hyundai Kona, Kia, la nouvelle Kia Niro électrique, ça s'en vient. Donc c'est les VUS électriques hybrides enfichables qui à mon avis constituent l'avenir pour ceux qui veulent sauver de l'essence et avoir un véhicule pratique.
Aucun doute. Ça a passé trop vite. On aime ça parler de voiture. Merci à tous les deux, on fera ça.
Ça marche.
Restez là tout le monde, on se retrouve après les nouvelles.